Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 16 octobre 2024 et vous écoutez Le Café de l'e-commerce, saison 6, épisode 207, depuis Windy Chicago, Illinois. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Hello everyone, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger de la deep dish pizza, des donuts ou encore un hot dog.
Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif, mais jamais méchant, tel est notre credo.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Au sommaire de cette émission, retour sur Shop Talk Fall Chicago, l'événement e-commerce de cet automne aux États-Unis. On vous fait le récap de ce qu'on a vu et entendu de cette première journée. LCDE en mode Al Capone, c'est parti.
Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres. Alors Adrien, petit rappel, qu'est-ce que c'est que ShopTalk ?
Si je dois décrire à quelqu'un ce que c'est, je dirais que c'est le concurrent de NRF, qui est le plus gros salon e-commerce retail au monde, qui se déroule en janvier à New York. Et donc ShopTalk, c'est un peu le pendant, qui est organisé par un autre groupe, par Hive Event. Ils organisent Grocery Shop en octobre à Vegas, je crois. ShopTalk aux États-Unis à Vegas en début d'année. Fall, donc cette édition Chicago, et Spring à Vegas aussi. Donc ils ont plein d'événements toujours autour du retail et de l'e-commerce, Laetitia.
Ouais, et puis il y a ShopTalk Europe aussi. C'est pas que
américain. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, je suis bête parce qu'on y va chaque année en plus.
Oui, mais oui.
Et à Barcelone.
Barcelone. Et les thèmes de cette édition américaine, en tout cas très nord-américaine.
Alors cette édition, déjà c'est la première fois, c'est la première édition, ce ShopTalk Fall Chicago. Et donc pour cette première édition, on est bien content d'avoir été invité et de pouvoir voir cette édition. Les thèmes, il y en a quatre. Le premier thème, c'est le commerce unifié.
Et le deuxième, c'est Standard Customer Experience. Donc, c'est la customer experience.
Le troisième thème, c'est un peu fourre-tout avec la culture d'entreprise et les équipes et les organisations. Là-dedans, on va parler de Gen Z, de culture, etc.
Et puis, growing the business, c'est un peu ces tendances qu'on observe autour du retail média, l'avenir des marketplaces.
Ouais, c'est tout le reste, quoi.
C'est tout le reste. C'est la poubelle, c'est ça ?
Ouais, c'est un petit peu ça. Je sentais qu'il était inspiré sur les deux autres. Ouais. Les deux premiers, après un lien, vas-y, on va faire des trucs un peu plus transverses pour que tout le monde puisse caser ses conférences. Laetitia, je te propose, comme à chaque fois qu'on fait des salons, de dégager trois tendances. Enfin, trois choses qui nous ont marqué. Et puis, on les commente, ça te va ?
Allez, on y va. Et on commence avec la première, Adrien.
Le commerce unifié. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ? Ça nous a marqué pour le coup.
Ça nous a marqué parce que effectivement, alors tu l'as pas rappelé en introduction, mais lors de ShopTalk, il y a plein de conférences. Alors, il y a bien sûr des one-to-one retailer solutions. Il y a aussi un espace pour que toutes les solutions puissent exposer. Et enfin, le cœur en tout cas de cet événement, ce sont les conférences. Et ce matin, c'était l'opening session. Ça a commencé avec une marque que j'aime bien. C'est Rent the Runaway, qui est un peu autour de la circularité et de la location, qui est une marque très très connue ici aux États-Unis. Et la deuxième marque, qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement et que je suis quasiment depuis ses débuts, c'est Glossier. Tu connaissais Adrien Glossier ?
Je connaissais de nom parce que c'est un des modèles des boîtes D2C. Par contre, j'étais complètement à la ramasse sur qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années, quoi, on va dire. Donc moi, j'entendais le truc et j'avais les yeux qui brillaient. Et toi, tu faisais la blasée. Oui, mais je connais déjà tout ça par cœur. Je pourrais être on stage et expliquer à la patronne ce qu'elle doit raconter, ce qu'elle fait. Donc vas-y, parle-nous-en parce que
c'était. Alors, c'est pas la CEO Emily Weiss qui s'est fait évincer il y a presque 2 ans de son poste, mais bien celle qui l'a remplacée, qui était là et qui racontait l'histoire de Glossier d'un point de vue, pas tech déjà, parce que la première chose qu'elle dit, c'est que Glossier, c'est pas une entreprise tech, c'est une D2C qui a été créée à l'origine grâce à sa communauté, parce que Emily Weiss, qui était la fondeur et CEO de Glossier, elle a commencé à travers un blog. Et petit à petit, elle a construit ses produits et puis après, elle a vendu en ligne. D'ailleurs, Powered by Shopify, c'est l'une des success stories de Shopify. Glossier, c'est d'abord un réseau de boutiques Glossier aux États-Unis, c'est à peu près une dizaine de boutiques et puis après un peu en Europe. Elle nous explique qu'il allait avoir une expansion au Middle East et aussi en région APAC, donc en Australie.
La particularité de cette marque, c'est qu'en fait, elle a basculé d'un modèle D2C, donc les DNVB, ce qu'on appelait DNVB, vers un modèle omnicanal avec des magasins, et ils ont réussi. Là, tous les autres, énormément de boîtes se sont cassées la gueule. Eux, ils semblent avoir réussi. Qu'est-ce qu'elle a raconté et puis comment t'expliques justement son succès ? Elle en parle un petit peu ou pas trop ?
Elle en parle et elle explique surtout qu'à la base, c'est une marque communautaire et ensuite, c'est une marque avec différents produits. Donc, on n'a peut-être pas expliqué, mais cette marque Glossier, c'est une marque de beauty. Beauty, make-up, mais aussi skincare et qui propose beaucoup d'expérientiel. Donc, toutes les boutiques Glossier, vous avez de l'expérientiel. C'est vraiment une expérience. Et bon, alors, en France, on n'en a pas. Mais en revanche, si vous allez à Londres, c'est la boutique phare en Europe de l'expérience client.
Oui, bon, du coup, comment ils ont transformé l'essai? Alors, comment ils ont
transformé l'essai? Eh bien, ils ont dialogué constamment avec leur communauté. Et alors, on parlait des réseaux de boutiques, mais c'est aussi des distributeurs. Aujourd'hui, ils sont chez Sephora et c'est assez récent, c'est à peine un an qu'on peut retrouver la marque chez Sephora.
Parce Sephora que France, par exemple, ils le vendent dans les boutiques Sephora?
Oui, Sephora France.
Donc, tu peux acheter du Glossier.
Tu peux acheter du Glossier là-bas. Et c'était pas inné pour eux, parce que quand tu es une D2C, tu restes sur ton petit site Shopify et bon, éventuellement, tu ouvres ta boutique avec un POS Shopify, mais le rêve américain d'aller chez Sephora, en tout cas le rêve français d'aller chez Sephora, il n'est pas forcément dans l'ADN de la marque. Et puis c'est surtout une marque intergénérationnelle, ça parle à tout le monde Glossier. Même si c'est un peu cette étiquette de Gen Z, finalement, non. Et toi, à ton avis, Adrien, sur cette conf?
J'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a toujours ce biais du survivant. Tu vois, tout ce que tu me racontes, je ne connais pas suffisamment l'histoire comme toi, mais on écoute la communauté, on est community first, on écoute ses consommateurs, on ouvre les magasins, c'est expérientiel. Tout ça, tout le monde le dit. Et 99% sont cassés la gueule.
C'est vrai, à la base, c'est un média quand même.
Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis juste les conseils qu'ils donnent. Bah, tout le monde a essayé et pourtant, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi? Et c'est, à mon avis, c'est ailleurs. Tout le monde raconte la même chose. On écoute la communauté, on fait du bottom-up, etc. On expérience sur le magasin, machin. Donc je pense qu'ils vont, c'est une marque très très forte. Ils ont réussi là où beaucoup ont échoué. Et voilà. Et donc dans la conf, par contre, moi, c'était hyper inspirant parce qu'elle s'exprimait très bien. C'était très concret. Il y a une citation que j'aimerais bien te lire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle explique, alors c'est de la traduction, donc ça fera un peu bizarre, mais c'est les contiguïtés ne sont plus dans un grand magasin, dans les centres commerciaux. Ça se trouve sur TikTok. Et en fait, ils se disent, bah, si, de manière horizontale, où est-ce que les gens ils vont peut-être entendre parler de toi, ils vont venir, ils vont faire de la discoverabilité, comment on dit, Alicia?
Découvrabilité.
De la découvrabilité, c'est ça. C'est sur TikTok. Ils ont tout compris. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu sur l'aspect justement communautaire, c'est, et là, c'est mon côté nerdos, elle parle de Reddit. Elle dit, on a 60 000 membres actifs dans la sous-communauté Reddit. Mais ils ont tout pigé à partir du moment où la patronne...
Quelle marque va parler de Reddit?
Et puis quel
stage.
Patron est capable de comprendre ce que ça veut dire, etc.
Exactement.
Donc là, moi, je me suis dit, bravo, j'applaudis.
Elle avançait le chiffre de 3 millions de viewers sur TikTok, ce qui est énorme, notamment quand tu sais que ça, c'est une D2C.
Du coup, toi, tu la connaissais très bien, cette marque. Est-ce que tu as appris des choses? C'est quoi ton avis sur cette conf?
J'ai appris des choses, notamment sur le côté multigénérationnel. Là, je le dis, mais finalement, moi, je pensais vraiment que ça s'adressait à de la Gen Z, même si je suis pas partie de la Gen Z, mais en tout cas, je consommais. Et moi, je faisais partie des gens qui étaient très sceptiques après le départ ou l'éviction d'Emily Weiss en me disant, mais cette marque, elle ne survivra jamais au départ de sa fondatrice. Et en fait, si. Parce que comme tu viens de le dire, l'actuel CEO, bah, elle s'exprime bien et même si elle dit qu'elle n'est pas une boîte tech, enfin, quand même, quand tu décides d'aller vendre ou t'exprimer sur TikTok, c'était quand même une petite appétence tech.
Deuxième chose qui nous ont marqué dans cette première journée, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est sur 3 jours, donc là, on fait le récap du premier jour, c'est l'achat, enfin le shopping à travers toutes les générations et notamment la bascule de la personnalisation à l'individualisation. C'est quelque chose, aussi, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on entend, mais par contre, aujourd'hui, il y avait des conférences et des sujets à propos de ça. Laetitia, tu veux nous parler de quelque chose en particulier?
Ouais, moi, j'ai assisté à une conférence qui pouvait être un petit peu boring as well au départ. Alors, c'est Nielsen IQ qui venait présenter une étude qu'ils avaient menée et c'est une étude transgénérationnelle. Donc, qui explique bien les comportements d'achat selon que vous apparteniez à telle ou telle catégorie de génération. Et en fait, moi, je me suis dit, OK, on va beaucoup s'attarder sur la Gen Z et ils sont géniaux. Et d'abord, ils vont sur TikTok et puis après, ils vont essayer en boutique. Et puis finalement, ils finissent par acheter sur Vinted. C'est pas vraiment ça. En plus, là, on parlait vraiment du consommateur américain. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on ne parlait pas de persona cette fois-ci, mais moi, j'aime bien dire qu'on ne parle pas de persona, mais de communauté. Et en fait, voilà, elle expliquait que ce n'était pas une génération, mais c'est des communautés au sein de cette grande génération. Et ce qui était assez important, c'est qu'elle décortiquait les comportements d'achat et aussi elle y associait des marques. Et donc, il y a des marques qui n'apparaissent pas. Et moi, j'étais vraiment surprise parce que c'était une présentation où on ne parlait pas des géants. Quand je te parle de géants du retail américain ou de l'e-commerce américain, tu vas me dire qui, toi?
Amazon, Walmart.
OK, Amazon, Walmart, Target, on n'en parle pas. On ne parle pas de. On va te parler de qui? On va te parler d'IKEA, on va te parler de J.Crew, Alors après, là, je pourrais te demander, à ton avis, J.Crew, qu'est-ce qu'il achète chez J.Crew, qu'est-ce qu'il achète chez IKEA. On va te parler de Shein. On va te parler de TikTok. TikTok, c'est une marque, en fait, au-delà d'être une plateforme. Donc voilà, toutes ces marques-là, elles étaient associées à non pas une génération, mais en tout cas des communautés. Donc l'approche était assez... ça changeait en tout cas. C'était assez rafraîchissant de voir cette méthodologie. Et puis, j'ai réussi à récupérer la présentation si ça intéresse quelqu'un. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce positionnement?
C'est vrai que c'est intéressant dans les cours de commencer à entendre même parler de Gen A, Alpha. T'es presque dans la Gen Alpha, c'est ça, on va pas les voir ton âge. Non mais bon, donc, génération Z, c'est, on va dire, c'est ils sont nés jusqu'en 2010, et Gen Alpha c'est entre 2010 et 2025. Donc les marques ou on stage, on commence à savoir ok c'est quoi c'est les comportements, et c'est vrai qu'on est moins dans les clichés, on commence à regarder, mais il y a peut-être de l'espoir. En tout cas, il y a une compréhension, on essaie de comprendre cette nouvelle génération de consommateurs qui va s'attirer tous les géants, parce qu'il va falloir avoir adressé ces nouveaux consommateurs qui vont arriver sur le marché, les comprendre et puis les convaincre, et tout ce que tu racontes autour des communautés, et il y a plein d'exemples. Là on va pas en parler, mais tu vois d'exemples de social listening où on va essayer de comprendre, essayer de leur répondre, essayer d'être ce que je trouve bien, c'est que cette époque du top down, elle est révolue. Alors elle existe toujours avec des super géants, influenceurs, etc., mais on est un peu plus à l'écoute et on sait que on peut pas tout contrôler, donc il va falloir, tu vois, essayer de vivre avec et de continuer à évoluer dans cette ambiance très hyper compliquée où on sait pas du tout où ça va aller.
Ouais, et où le consommateur est quand même très volatile, hein.
C'est exactement ça. Le marché est volatile, le monde est volatile, tout est volatile, et donc en fait, comment est-ce que tu anticipes? Et juste en regardant, en étant super carré sur la réalisation, et puis en écoutant ce qui se passe, et ceux qui écoutent pas, de toute façon, ils sont morts.
Alors Adrien, on n'a pas que fait s'asseoir et écouter des conférences, on est allé aussi à la rencontre des tech exposantes. Qui est-ce qu'on a rencontré aujourd'hui?
Ouais, justement, c'est la troisième, un petit peu le troisième point qui nous a marqué, c'est les techs. On a dû voir une dizaine de techs. Peut-être sur le salon, il y en a peut-être une cinquantaine, je sais pas, comme ça au feeling, peut-être un peu plus, je sais pas. Bon, en tout cas, on en a vu un paquet.
Il n'y en a pas de masse.
Par rapport aux salons qu'on a pu faire, il y en a beaucoup moins, mais on en a rencontré pas mal. Alors on a zappé tous ceux qu'on connaissait. Et puis là, on s'est rapproché de certaines qu'on ne connaissait pas. Et on va les écouter. Le premier, c'est on a rencontré Hugo de Domi, on a rencontré Jonathan de Niftmint. Et ensuite, Jonathan est allé dans une autre boîte. Non, je rigole, c'est un autre Jonathan de Rockerbox. Voilà, c'est ça. On a rencontré, je crois, trois de Jonathan aujourd'hui de Rockerbox. Et on vous propose de les écouter tout de suite.
Et nous retrouvons Hugo de chez Omi. Hello Hugo.
Salut.
Bonjour Hugo.
Tu vas bien Hugo?
Ça va et vous?
Ça va très bien. On est vraiment contente de t'avoir rencontré vraiment par hasard.
Moi aussi.
Parce que je crois que c'est une belle start-up française qui a levé beaucoup d'argent il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Raconte-nous tout. Qu'est-ce que c'est qu'Omi?
Écoute, Omi, ça part d'un pain qu'ont tous les retailers et tous les e-commerçants. Ils doivent créer en permanence des photos pour leurs produits, pour tous les réseaux, le site e-commerce, les magasins, le CRM, les campagnes d'acquisition. Ils le font avec des photographes. Le problème, ça coûte cher, ça prend du temps. Nous, on permet de faire en deux minutes des photos qui ont le même niveau de qualité de réalisme qu'un photographe en autonomie. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette boîte avec mon frère Paul et l'équipe. C'est pour leur permettre de créer facilement leur contenu visuel.
Là, tu parles à Laetitia Adrien, on est passé par là parce que littéralement, on avait des business où on devait faire des photos. Les photoshootings, ça coûte extrêmement cher. Ça prend du temps. Et puis derrière, pour les modifier, il faut refaire du shooting et tout ça. Ça fonctionne comment alors? Il y a le mot IA derrière, donc je suppose que ça va arriver, ça va t'aider?
Alors d'abord, c'est de la 3D. On transforme le catalogue produit de nos clients en objet 3D. Le but, c'est d'atteindre une modélisation 3D, donc un clone digital 100% photoréaliste.
Okay.
Si je te montre le modèle 3D à côté d'une photo du produit, tu ne vas pas être capable de dire lequel des deux est réel, lequel des deux
démo.
Est virtuel.
Tu vas nous faire une démo tout à l'heure.
On peut faire une démo avec plaisir, une démo gratuite évidemment, parce qu'on est entre nous. Et ensuite, une fois que le produit est modélisé en 3D, tu le retrouves sur Omi. On aime bien dire que c'est le canevas de la 3D, c'est un studio photo virtuel dans lequel tu peux le mettre en scène à l'infini. Tu peux changer les angles de vue, les fonds, les accessoires, le nombre de produits que tu présentes. L'IA, elle sert justement à générer ces fonds, ces mises en scène, ces ambiances. Mais la promesse à la fin, c'est que ça ressemble à une vraie photo. C'est ce que tu viens de dire. Nous, on veut remplacer une partie des shoots photos.
Sur la première partie, pardon, tu peux revenir dessus. Modélisation de 3D, c'est toi avec tes petites mains, tes ingénieurs qui font ça? Ou c'est il y a de l'IA? Ou c'est comment je te fais 3-4 photos de différents angles? Comment ça marche?
Alors, cette partie-là, on l'a fait à partir du produit physique ou à partir de photos. Si on l'a fait à partir de photos, il n'y a pas d'IA, c'est fait à la main. Donc, tu as un artiste qui va recréer ton produit en objet 3D. C'est une étape manuelle qu'on fait pour toi. Si tu nous partages le produit, on a des technos de scanning 3D qui sont augmentés par de l'intelligence artificielle et qui permettent de créer un clone digital 100% fidèle au produit réel que tu peux après mettre en scène.
Hugo, avec quel genre de marque tu travailles ?
Alors, d'abord avec des marques qui font des petits produits. Nous, on veut régler le pain de la création de contenu pour les petits produits. Donc c'est
tu
la
fais
beauté.
Pas de voiture.
On fait pas les voitures, exactement. On fait la beauté, la cosmétique, les boissons, le CPG, les vins, les spiritueux. C'est un marché qui a vraiment ce pain tous les jours en permanence. Tu dois en permanence créer du contenu si tu veux continuer à exister, à te différencier par rapport à tes compétiteurs. Et donc voilà, c'est vraiment notre cible. Et c'est plutôt des marques mid-market, enterprise, qui nous utilisent parce qu'elles doivent faire ça à grande échelle sur plusieurs marchés, sur parfois des références produits qui peuvent être dans des milliers de SKU. Et donc, on règle un pain qui est vraiment massif pour eux.
Est-ce que tu pourrais modéliser des personnes ? C'est une question débile.
Ah, la question piège.
Non, est-ce qu'il y a un use case d'ailleurs ?
Non,
pour
alors il y a un use case, tout le monde cherche. Tu as peut-être suivi ce qui se passe dans l'IA génératif 2D. Nous, on est dans l'IA génératif 3D qui est différente. Personne n'arrive à faire l'humain. Personne. En revanche, nous, on arrive à faire les mains. Donc, si tu veux ton produit tenu dans une main, une interaction avec une main,
avec
ton produit,
on peut le faire. Mais une vraie main avec 5 doigts, pas avec 25
000 doigts. Une main qui a 5 doigts, qui a les bonnes proportions, etc.
Bah, donc, par exemple, pour une montre, tu pourrais faire des mains propres,
pour
etc.
Pour une montre, ça marcherait sans problème.
Ou des bijoux, par
tout
exemple,
tout
ce genre
de choses. Au lieu de faire un shoot, parce que c'est encore plus compliqué, les shootings mains avec des mannequins, tu peux le faire avec nous.
Tu fais de la vidéo... Non, pardon, tu fais de la 3D. Ce sont des images statiques avec des angles de vue différents. C'est pour ça que tu le fais en 3D. Est-ce que l'étape d'après, c'est la vidéo ou pas du tout ? Est-ce que ça serait dans la roadmap ?
Alors, on fait la photo et la vidéo et la 3D interactive. Donc, on fait l'ensemble de la palette. La vision qu'on a pour Omi, c'est d'être un one-stop shop de tout ce que tu peux vouloir faire en contenu marketing, photo, vidéo ou contenu interactif. C'est déjà le cas chez nous. C'est une fonctionnalité qui est très populaire parce que la photo, c'est compliqué à gérer. Mais alors, la vidéo, c'est 24 images par seconde. C'est encore plus dur. On te permet de le faire déjà.
À qui tu pitches ça ? Aux équipes marketing ?
Énormément aux équipes e-commerce, CRM, e-commerce. Social media, en fait aux distributeurs du contenu. Donc quand tu es un e-commerce manager, tu dois créer des bannières, des bundles, des pack shots. Tu n'as jamais le contenu à temps parce que les studios graphiques, les équipes internes ou externes ont du mal à tenir la cadence, le volume. C'est eux l'utilisateur final. Donc c'est vraiment un use case e-business de distribution pour les photos et les vidéos.
Hugo, je crois que vous avez eu une super belle... Non, je crois que vous avez levé une belle somme il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, bravo.
Merci.
Il y a une belle histoire là qui s'inscrit aux États-Unis. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Écoute, déjà, dans votre audience, je sais qu'il y a tous les retailers et tous les e-commerçants. Donc merci à nos clients parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à se financer. C'est 13 millions d'euros qu'on vient de lever il y a quelques mois qui servent à deux choses. D'abord, terminer de consolider le produit. On a un produit qui est très puissant, qui est très stable. C'est des millions de rendus qui sont générés chez nous chaque année. Donc c'est déjà un produit qui sert beaucoup de marques et beaucoup de use cases. On veut terminer d'ajouter les fonctionnalités qu'on a dans la roadmap dessus, notamment des fonctionnalités pour distribuer automatiquement le contenu depuis Omi versus le télécharger et l'uploader. Et ensuite, c'est ce que tu viens de dire, c'est des ressources qui vont servir à notre expansion internationale avec en ligne de mire les États-Unis. On vient de faire un roadshow avec l'équipe de 3 semaines aux États-Unis pour monter notre équipe, ouvrir nos bureaux et puis rencontrer nos premiers clients. La magie 3D, on a fait le taf, on a fait le job en Europe, mais on veut l'amener à nos amis américains le plus vite possible.
Super, merci Hugo.
Merci beaucoup.
Merci
Hugo.
À vous.
Hugo, comment est-ce qu'on fait pour suivre votre belle histoire américaine et française ? Comment est-ce qu'on peut vous suivre ou te contacter ?
Alors, s'il y a des marques qui sont intéressées ou des retailers qui sont intéressés, vous allez sur omi.so, omi.so, et vous faites un essai gratuit. Pas de carte de crédit, tout est gratuit. Vous pouvez tout tester, sauf votre propre produit. Si vous voulez votre propre produit, vous nous contactez directement sur le site ou ailleurs et on vous permettra de l'ajouter. Et puis, pour suivre les actualités, retrouvez-nous sur LinkedIn, retrouvez-moi sur LinkedIn. On poste beaucoup, on est très actifs. Donc, c'est là que vous aurez les dernières news concernant Omi.
Super.
Merci beaucoup, Hugo. Bon salon à
Merci
toi.
Merci à vous.
And we are here now with Jonathan from Nift Mint. Hello, Jonathan.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Jonathan. Bonjour, monsieur.
Comment ça va?
It's impossible to pronounce your name, Nift Mint.
What does it mean? What Nift Mint means?
What does it mean in English?
Yeah. So, we use NFT technology.
Okay.
And so that's where the Nift comes from. But I do want to clarify, we do not do any of the speculation aspects of NFTs. We never have. We strictly treat it as a digital twin of a physical product. So anyways, that's where the Nift comes from. And then mint is because when you create something, like when you create currency, you are minting.
Currency.
Yeah.
Okay. So,
and I
Jonathan,
like the color green.
Who are you?
Who am I? I'm Jonathan G. Blanco. I'm the founder and CEO of Nift Mint. What we do is we create digital twins of products for brands as a way to authenticate their products and also drive engagement and rewards. And a little bit about me, I've been working in retail technology for the last 15 years or so. I actually grew up in commerce. My parents had a retail store, and I've just been able to be in really innovative things from the start. So working on things like buy now buttons and shoppable commerce back in 2014, beacon technology, and then even been at this intersection of Web3 and commerce since 2017.
Can you share with us what's the typical customer journey if they're using your technology, right? On the brand side, maybe on the customer side.
Yeah, most definitely. So brands have this problem right now where they do not understand how their customers use their product. They also have a problem with counterfeit goods. It's a $3 trillion industry, actually. And so what we do is we create a digital version or a digital twin of that physical product that lives and is tied to that product forever. So from a customer journey perspective, imagine that you go to Montclair, you see a beautiful jacket, you purchase that jacket. And when you purchase that, there's this option to receive the digital item. Now that becomes a marketing decision. Montclair can say, hey, pay us a little bit more and you get this, or this just is included in the product overall. And at that moment, that product, that digital is now yours. It is essentially in your Montclair account. You can go to your website, you see it, or on the app, you see that overall. Once that product is then shipped to you, you will go ahead and be able to pair those two items together. You get to see, how all the details of it. Why that's very key and why it's important is because all the critical information about that product live there. So everything from any sort of warranty, service level type of aspects to it, manufacturing quality, when it was created, what quantity, et cetera, this can now all live in that digital. And that actually breeds incentivization because of the fact that it's paired together. And so that's what gets really excited for us is you get to now tell people, hey, Adrian, go ahead and wear this jacket to the Shop Talk conference and you're going to get points, cash back, rewards, some sort of incentive overall. So that's at the core of what we're building and what we put together so far.
Okay, so that's from the customer perspective. What about the brands?
Yeah, from the brand perspective, we make it really simple for them. So a lot of people don't know this. I'm sure your listeners know this. Most brands are not incredibly technical, right? They're either working with agencies or using e-commerce platforms. And so you're typically going to get the brand marketer involved to implement a lot of things on the e-commerce site. So what we do is we're an application inside of e-commerce platforms that brand marketer can simply download. And now they have this product or, our app available to be able to create these digital twins directly in the e-commerce platform. So the same way they would create any other physical product, they're now able to create these digital products. They pair it or attach it to the physical, and they can offer it for sale or give it away in that site. As you can tell by what we're talking about, we do use cryptocurrency and we do use NFT technology. I want to be super clear, though. We don't put any of that burden on the end consumer or on the brand. We manage all of that for them. We see crypto simply as infrastructure. And so we create any sort of crypto wallet or any sort of cryptocurrency or any sort of management of these digital twins. We're doing all of that in the background. Just like Stripe does this for PCI compliance and payments, we do this for tokenization.
Jonathan, I have a feeling that the KPIs, the impact on KPIs are long-term value on the revenue that you can generate from customers, loyalty, engagement from those customers, right? Because the more you know them, the better you can serve them, maybe products, services, on after you sell. It's all everything about post-purchase, right? About how you engage with them.
Totally. So 100%, right? Every brand wants to know that people are using their products. It's one thing to purchase it. I was talking to someone earlier. I was like, well, brand only cares if someone buys their product, right? I'm like, no, of course not. Because if you get all these sales, but you don't get resales, or if you don't know how someone's consuming it, how do you know what fabric to use or what colors to use or these sort of things? So on the incentivization side, let's say enough people are checking in with a Louis Vuitton purse, right? And all these people start checking on this particular Louis Vuitton purse. A brand is basically able to start getting engagement metrics on how people are using that product in a native environment, in the wild, which is a data set and a data point that they've simply have never had access to. One of the biggest values behind technology companies or application companies is the daily active user, right? Like when you think of social media, it's all about daily active users. That's where their value comes in. We get to allow for a brand to start thinking about what is a daily active user look like for them based on this authentication mechanism.
Jonathan, speaking about e-commerce integration and API, to which platforms are you connected with?
So great question. We're currently connected to the BigCommerce platform. We're next focused on Salesforce Commerce Cloud and Adobe Commerce. But the way we're prioritizing our e-com integrations right now is simply based off of the customers that we've been engaging with. But I've been building e-commerce integrations for 15 years. So what's nice is a lot of these e-commerce platforms are pretty easy to work with now, much easier than they were 15 years ago, by the way. So yeah, it's really simple for us to spin up an integration, and we're just prioritizing it based off of
the brands. And this platform are tailor-made for huge or enterprise account, not for SMBs. Basically, yeah.
While we can be available to SMBs and we can use it, you know, I've probably made more Shopify applications than I'd like to admit. We're not focused on the SMB market just yet. We do see a world where we kind of go down to that realm. But for now, we're focused on luxury retail, jewelry,
high-end products.
High-end products, and then wine and spirits, and then the automobile industry.
Jonathan, what is the future for you? Your vision of the future in the coming years, days,
hours?
I want to meet my digital twin, my digital Adrian, if he's as crazy as I am.
So as
I don't want to meet the digital twin of Leticia, by the way.
No, that's funny, actually. As crazy as that might sound, I actually don't think that's that crazy, having a digital twin of yourself. I actually have a slide from a deck that I put together for a slightly different concept than NIFMINT, where I had a picture of a crypto kitty. It was when crypto kitties first came out. And then I had this kind of like an ID of a person. And I basically said, we are going to tokenize humans. But it was like this notion of, you know, digital twin of yourself. But, you know, in regards to what the future looks like, we believe that all we are doing is driving the same behavior that happens online into the physical world overall. Everybody talks about omnichannel, and how much more omnichannel can you really be than how you engage with products in real time and in real life? So we think that every single company will have digital versions of their physical products. Like, it's just going to become a normal thing. So much so that this, you know, $20 t-shirt that I had made that's not fancy, that's not, you know, high luxury, will have a digital twin component to it. And the reason why simply is at that point in the future, it becomes a digital receipt. But again, it still has all the key important information. I can track it, especially when you think about things like the long-term value and the full product life cycle, you get to measure that as well. I also see a world in how consumers get to participate in the data value creation that takes place, right? So part of what happens in the NIFMINT rewards context is simply rewarding shoppers for doing what they already do, is shop, and, you know, how they share their shopping history and how they share their product usage and the things that they do by acquiring the things from these products and brands, you know, that they love all together. So how do they get to participate in that overall? That's the realm that, you know, AI and Web3 really talk about. But this is an actual use of how that would happen, because everybody transacts. Every single person on this planet has to transact to survive. And now you can create like the incentive and reward mechanisms around that.
Jonathan, thank you very much. We would love to continue talking with you about this. So if our audience want to know more, how do they have more information?
Well, first, merci beaucoup, monsieur and madame, for having me on your show. I really appreciate it. Look, the best ways to get in touch with me is either Instagram. I'm JG Blanco on Instagram, or LinkedIn, JG Product, or Jonathan G Blanco. I might be crazy. You can even email me, jonathan@nifmint.com, or go to nifmint.com. But if you do email me, jonathan@nifmint.com, have a conversation with me first. Don't come to sell me.
Jonathan, it's funny because we had like over 100 people coming to this show since like almost 6 years. It's the first time I hear someone sharing Instagram first.
Yeah,
right?
Exactly.
I love this. Yeah. I love this.
Well, do you have TikTok? Are you on TikTok?
So I have a TikTok, but I think I have 100 people that follow me, and I consume a lot of TikTok content. But you know, what's funny is, I wouldn't say I'm like a major fashion person by chance, but being in this industry has turned me into that, where I've turned into this fashion nerd. You know, I've seen people walk by and a woman came by, I was like, I love your purse. Like, I love your heels. Or a guy came back, I could see his watch, I was like, I love your watch, right? So I think in being in this industry, it's really allowed me to learn more about, you know, high fashion and just appreciate it even more.
I love that because I'm just like you.
Yeah.
Guys, thank you very much.
Thank you.
Have a wonderful show.
Thank you.
Thank you. Bye-bye. Merci.
And I'm very happy to be here with Jonathan from Rockerbox. Hi, Jonathan.
Hi, how you doing?
Jonathan, what are you doing here at Chip Talk Chicago?
Yeah, so I'm here with a company called Rockerbox. We are a marketing, measurement, and attribution platform. We work with some really great companies really all over, helping them understand their marketing spend, where they should spend more money, what channels are working for them. And we apply different methodologies like multi-touch attribution, media mix modeling, testing. So we do a lot.
Campaign attribution is something that we heard like a lot, especially during the last years, because it's I guess that you see your customer are investing in many channels. Can you I think the company is less than 10 years old. Can you just quickly share with us how you see the last 10 years in terms of campaign? Is it like always the same one in Meta maybe and Google, or do you see like a lot of new players coming?
Yeah, what's interesting is how much it's evolved over the years. So when we first started, we were solely multi-touch attribution focused, which means we were tracking full path to conversion, being very granular, and that worked really well for direct-to-consumer companies. And throughout that time, it still worked very well. But as those companies began to expand into wholesale, into their own owned and operated retail stores, we needed to grow with them. So that's why we've expanded to things like media mix modeling and testing. It's funny because even things like media mix modeling are old measurement methodologies that have come back into like be the popular buzzword now. So it's always evolving. Measurement's tough, especially when you layer in like privacy restrictions and things like that.
And you know, it's funny because in this space, everyone has its own model and everyone is fighting. What is the best model? I've seen some shit online, everyone like arguing, and it's an endless discussion. No one is right, yeah. No one is wrong. It's about, you know, the philosophy of what's finding the right balance.
It's a great question. And that's why we would say there is no one correct model that's going to solve everything. And that's why we have different methodologies. We can tune our models and we can change our models, bring outside factors in. So the reality is no one has it 100% figured out. And if I told you we did, I'd be lying to you too.
Jonathan, you guys have a great connection with some platforms such as Shopify and also TikTok. Can you tell us a bit of your story with commerce and social commerce, maybe?
Yeah, absolutely. So a big challenge for a lot of the retailers or a lot of the companies we work with is they were struggling to go beyond just click data. And we wanted to be able to bring that to them. So we worked years to form these partnerships with companies like TikTok, Snapchat, Reddit, Pinterest, and even companies like Facebook and Meta, where we could bring impression level data into our platform, include it in their path to conversion, so they can see these upper funnel tactics if they're working not just at last click.
Jonathan, can you just make a clear focus on TikTok? Because, you know, we are French and in France, we don't have TikTok shops as for example, and TikTok is a big mess for us. So can you just explain what kind of campaign do you measure on TikTok as for example?
So TikTok is a channel where, you know, like most social channels, people are clicking and they're going direct to website and buying from there. TikTok is an impression heavy channel. So people are scrolling through TikTok. They might see an ad, they might see something, and they're not going to instantly take an action there. So it's important for our companies, our clients, to be able to view those impressions and the impact of that. So through our integration, we're able to bring in that impression level data and include it in the path to conversion. What that means is now for media campaigns running on TikTok, they can see directly the impressions that were seen there and therefore the upper funnel tactics. Maybe it's the first time you were introduced to a brand on TikTok and you later maybe search for them on Google or something like that. TikTok wouldn't get any credit for that. And those campaigns wouldn't get any credit for that. So we're able to show visibility into those.
You connect to TikTok? You scrap to TikTok? Or how does it work?
Yeah, we connect directly to TikTok.
Via an API. So you are
And through our system syncing, we have our own internal identity resolution that we're able to say, okay, you are in fact the person that saw the ad and we were in fact the person that converted on site.
So you guys will be maybe very soon in trouble if TikTok will be banned.
No, because it's that integration is only for TikTok, and really it's TikTok that would suffer as the ad budget would be shifted away from there into other platforms like Facebook and Pinterest and Snapchat.
If you don't measure, you won't invest in it. So yeah.
Correct. If it's banned, the companies are not going to invest in it.
So what's next for you? What's in the roadmap in 2025?
Yeah, a roadmap for 2025 includes more integrations like this. So we're expanding into other like walled gardens, as they call them. We're also working on bringing data back into the platform. So a lot of what we do now is displaying reporting and performance directly to the brand. But in the future, that brand will be able to connect the data directly to the platform and be able to optimize automatically their campaigns through the data that we're providing.
Do you do anything offline or it's 100% online? Like multi-channel attribution, do you do something around this in store?
We power offline as well. So we have methodologies in place for linear TV, direct mail, out of home, even CTV, which you can say is offline or not, but it's
considered. How do you measure on TV?
Yeah, so for TV.
With a QR code or something like that?
No. So for TV, we get log level data that we ingest that tells us what time they serve the ad, where geographical area they serve the ad. And then we do an analysis to match user behavior of when they come on site, when they converted, to see if, hey, there's a high probability they saw this ad, and then we'll include that in there.
And how do you know that an ad is converted or not?
Our code lives on site, so we're tracking the user as they're on site, as they're converting.
Okay.
Yeah.
Thank you very much, Jonathan. How can you reach to you or to your company?
Yeah, first of all, thank you both as well. It was great. Yeah, check out my LinkedIn and find me on there.
Thank you, Jonathan.
Thank you very much, Jonathan. Bye-bye.
Enjoy Shop Talk.
Bye. Et Laetitia, par rapport au tech, là, cette première journée, alors il nous en met, il y a encore beaucoup qu'on va découvrir demain et après-demain, mais c'est quoi ton premier feeling là sur ces techs, sur ce salon?
Mon premier feeling, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence d'un salon à un autre, où on voit les habitués, les habituels, les fameux. On a du Amazon, bien évidemment. On a plein de solutions qu'on connaît. Il y a BigCommerce, qui est quand même assez visible, je trouve. Shopify, qui est un événement, qui est quand même un des sponsors majeurs de cette édition. Et puis, des solutions comme Constructor, que nous, on a vu grandir, puisqu'on a vu, on les a rencontrés, je crois que c'est à la NRF, il y a quelques années, ils étaient tout au fond du truc, ils avaient à peine 2 mètres carrés. Bon, là, ça y est, ils ont grandi. Rien de foufou, hein. En plus, je trouve que c'est assez fouillis. Alors, on en parlera plus tard, mais tout le monde est mélangé. Alors que tu vois, d'habitude, quand même, sur ce genre de salon, t'as les petites startups, les petites pépites qui sont dans un coin bien délimité, parfois même c'est par région du monde. Voilà, on met tout le monde au même endroit et puis débrouillez-vous les gars. Donc voilà mon premier ressenti. Et puis il y a pas trop de tech étrangère, quoi. Bon, là on a rencontré quand même un français, mais sinon ça reste quand même très très américain ou nord-américain en tout cas. Et toi, Adrien?
Ouais, écoute, je rejoins complètement ce que tu dis, donc je vais pas te paraphraser. Il y a quand même des boîtes qu'on connaît pas trop, mais c'est complètement chaotique. Tu vas d'un truc de RFID à un autre truc, je sais pas quoi, ça n'a ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. Bah, d'un côté, c'est fun.
Un mec qui fait des étiquettes.
Voilà, c'est ça. D'un autre côté, c'est ça qui est fun, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors peut-être pour expliquer pourquoi c'est du grand n'importe quoi, ou en tout cas, je donne une explication. Il y a 6 mois, ce salon, le positionnement, c'était supply chain. On va t'expliquer comment gérer ta supply, ta logistique. Et au final, il y a 3 mois,
grâce
je crois,
à un truc dont on n'a toujours pas parlé, grâce à l'IA.
Justement, ça sera dans ma conclusion.
On n'en a pas parlé.
Mais donc, ça devait être le salon de la supply. Et je crois qu'ils ont un peu changé de stratégie en voyant qu'ils ne remplissaient pas assez. Et puis, il y a 3 mois, ils ont mis du merchandising, du front, de l'expérience client. Parce que finalement, les sujets, c'est les mêmes qu'on entend tout le temps.
Là, il n'y a vraiment rien de neuf. Alors, est-ce que les salons sont trop rapprochés?
J'ai lu qu'ils avaient fait ça parce qu'il y avait une demande. Mais il y a 2 semaines, ils faisaient un truc à Vegas. À grocery shop.
C'est grocery shop.
Donc, ok, c'est verticalisé grocery, donc grande distribution. Je sais pas la place de salon, je sais pas trop s'il y a de la place pour un salon comme celui-ci. Mais d'ailleurs, on est déjà en train d'aller vers la conclusion. Donc, en conclusion, Letty, il y a les 2-3 choses qui t'ont marqué. Peut-être dis-nous une chose et après, moi, je te dirai aussi un des trucs que j'ai dans ma conclusion pour cette première journée déjà.
Eh bien, pour cette première journée, je reprendrai peut-être ce que nous a raconté Sophie, je n'arrive jamais à prononcer son nom de famille, mais qui est la tête d'affiche, en tout cas celle qui représente ShopTalk, Waco, je crois qu'elle s'appelle, Sophie Waco. Bon, elle a dit un truc qui était « Find the signal in the noise ». En gros, faut, même les signaux faibles dans tout ce brouhaha, il faut qu'ils soient perceptibles et il faut qu'on les capte. Ça désigne quand même l'ambiance. C'est un peu, comme tu l'as dit, chaotique. On est quand même dans une ambiance très particulière. Alors, le retail américain va certes un petit peu mieux que le retail européen, en tout cas français. Mais en tout cas, c'est pas la folle ambiance, quoi. C'est pas très folichon. Et du coup, comme c'est pas très folichon, il y a pas les grands qui fanfaronnent, les habituels. On parlait de Target ou même d'Amazon. Ils sont quand même assez discrets. En tout cas, on ne les voit pas on stage nous raconter leur super barnet et leur super quarter. C'est quand même, on est quand même vraiment dans une la frugalité.
Ouais. Peut-être que je le mettrais sur le fait que c'est un mini salon. Toutes choses égales par ailleurs, parce que c'est des géants salons si on compare à des ShopTalk ou NRF. Mais c'est un salon peut-être plus petit, donc un peu plus cosy. Donc on est un peu plus calme dans la grande. Dans les exagérations, mais je te rejoins plus tôt. Moi, une chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le mot Unified Commerce que j'ai vu, lu, entendu un peu partout, mais ça reste assez foireux comme concept. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'utilise un peu à tout va, en t'expliquant que ça y est, c'est la nouvelle religion. Multicanal, on vomit. Omnicanal, t'es encore à la préhistoire. Maintenant, il faut prendre le commerce unifié. Mais en fait,
au-delà de lister quelques use cases, on ne t'explique pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de données, de consolidation de données, en termes d'outils, en termes de process, en termes de people, tout ça. En termes de business model, on ne te parle pas vraiment. Donc, ça reste le concept un peu fourre-tout. C'est bien de l'utiliser parce que ça fait smart, ça fait bien. Mais je trouve que c'est finalement assez vide et on l'utilise peut-être un peu à tort et à travers.
Je suis d'accord. Et il y a quand même un terme qui est quand même... manquant, bah c'est l'intelligence artificielle. Moi, j'ai rien vu sur l'intelligence, même sur les stands. Franchement, là, tous les salons qu'on a fait, on a toujours un truc powered by AI. Mais là, franchement, c'est moi qui disais aux gars, mais je comprends pas, il vous manque le terme IA là sur votre truc.
Moi, j'ai une théorie là-dessus parce que c'est tellement violent le fait que la IA, personne n'en parle, il y est pas. Je pense que c'est Shop Talk. C'est dans les. Je
tu
sais
crois
pas.
Que c'est dans leurs règles?
Bah, moi, je pense. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun salon dans lequel tu ne vois pas écrit IA. Et là, il n'y a rien. Il y a quelques tracks le dernier jour, donc on va y assister. Mais c'est tellement abusé parce que c'est la première fois en ans qu'on ne voit pas du tout. Et c'est violent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout que c'est pas impossible. Vous dites, écoutez, vous arrêtez votre bullshit, le IA, etc. Mmh. Vous focalisez sur les quatre piliers qui font ce salon. Alors, j'ai pas les règles, j'ai pas eu le contrat. Là, je commence à imaginer. Bon, on va sonder ça parce qu'on a nos taupes. On dit ça, c'est ça? On a nos taupes et puis on va essayer d'avoir cette information. Mais je suis d'accord avec toi. Et paradoxalement, il y a d'autres concepts qui sont arrivés. Et c'est marrant que tu parles d'IA parce que je l'avais cité parce qu'il y a moins d'IA. C'est le store mode que je connaissais pas alors qu'il existait, mais que j'ai
qu'est-ce
retrouvé.
Que c'est?
Et le store mode, c'est le fait d'avoir ton application et quand tu es en magasin, tu vas pouvoir l'activer. On va faire du geofencing, on va te localiser, on va te dire où est-ce que tu peux trouver tel produit, on va pouvoir te faire pousser des recommandations, etc. Et j'ai eu pas mal de use cases qui parlaient de ça, alors que d'habitude, c'est pas très commun, ok, ça existe, mais on n'en parle pas trop. Donc, ce store mode. Et la deuxième chose, c'est le contextuel commerce que j'ai lu, ça me faisait marrer. C'est ce que moi, j'ai appelé ça le commerce ambiant. C'est un peu pareil, quoi. C'est le commerce contextuel. En fonction de ce que tu fais, tu vas pouvoir acheter. Donc, il faut quand même inventer des petits buzzwords, tu vois. S'il n'y a pas d'IA, il faut quand même avoir d'autres choses.
Ouais.
Autre chose sur cette première journée,
ouais, autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est que direct, hein, première session, on te parle de Chine et TikTok. Alors les gars, ils attendent même plus le dernier jour pour t'en parler dans une salle un peu obscure. Non, c'est... Et en plus, ils sont un peu érigés comme des modèles. Hein. C'est pas du tout pour taper dessus. Donc ça, c'est très américain. On ne tape pas sur les numéros 1 des plateformes de téléchargement. Au contraire, on les encense. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je constate. À voir, est-ce que ça va se vérifier sur les jours à venir. J'ai vu des talks avec notamment Chine.
Et sur cette journée aussi, il y a un concept que j'ai revu plusieurs fois qui m'a étonné, c'est sur l'assortiment. C'est quelque chose qu'on entend depuis 15 piges, mais c'est pas une tendance en soi. Tu vois, l'assortiment, ok, c'est t'as une gamme de produits qui est proposée pour tes clients. Là, on l'a associé à l'assortiment, assortment fatigue. Donc c'est la fatigue de l'assortiment. Je sais pas comment on pourrait le traduire. C'est la fatigue qui est causée par un trop grand nombre de choix de produits, qui rend la prise de décision difficile pour les consommateurs. Ça revient sur ce que tu disais sur la personnalisation ou l'hyper-personnalisation ou l'individualisation même. Et le problème, c'est que les clients se sentent submergés et peuvent, du coup, ça perd l'envie d'acheter quand tu as trop de choix. Et les solutions, ça va être simplifier l'offre, la personnalisation, les recos et des stratégies omnicanales pour éviter la saturation.
C'est typiquement la stratégie de Glossier qui a finalement un catalogue produit assez restreint.
J'ai trouvé que ce mot assortiment, on le retrouvait beaucoup, beaucoup dans plein de thématiques, dans plein de talks. Alors que, est-ce que c'est une problématique du moment? C'est de ne plus submerger, ou c'est une manière différente d'utiliser le mot recommandation, personnalisation, je sais pas. Autre chose sur cette première journée, Laetitia?
Non, c'est bon, c'est tout.
On va à la conclusion?
On arrive à la conclusion.
De toute façon, la conclusion, c'est rendez-vous demain. Parce qu'on va
c'est rendez-vous demain, puisque c'est un épisode par jour. Ça dure 3 jours, donc stay tuned. Et puis surtout, on n'est pas là pour rien. On est là pour apprendre plein de choses et puis après, proposer notre restitution lors du Back From avec Michel Coq qui aura lieu le 7 novembre prochain. On vous met le lien d'inscription dans... la description de cet épisode.
Donc rejoignez-nous à Lille le 7 novembre prochain. En termes d'actualité, on a aussi le 27 novembre, on fait notre prochaine édition Store Tour, donc ça c'est à Paris, si jamais vous êtes dans le coin, le jeudi 27 novembre après-midi, c'est juste après Tech for Retail, on organise des Store Tours, donc on va visiter des magasins dans le centre de Paris et expliquer un petit peu en quoi ils sont innovants, donc ça va être plutôt sympa. On vise 8-10 personnes, c'est en petit comité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis le prochain lunch, Laetitia, tu seras là ou pas? T'avais beaucoup manqué à tout le monde la dernière fois.
Mais je sais pas. Je ne sais pas. C'est le 5 novembre prochain. Ouais.
On fait comme les youtubeurs, il faut 50 likes, 50 000 likes.
Exactement.
On ne fait pas liker les podcasts. Lâchez des commentaires.
Lâchez des coms et peut-être que je serai présente.
C'est le mardi 5 novembre prochain à Paris. C'est ouvert complètement à tous. Donc venez passer, faire un petit coucou et déjeuner avec nous. Laetitia, on se dit à demain.
Allez, à demain.
À demain, tout le monde.
Ciao, ciao.
Glossy, on aurait pu en parler encore deux heures. Et puis, tu vas aller le visiter. Enfin, on va aller le visiter, c'est ça?
Ouais, on va aller le visiter. Ouais. Je pense que.
Et toi, t'as déjà acheté dans un Glossier, donc ouais, c'est moi qui vais le visiter.
C'est toi qui vas le visiter.
Tu vas me faire le visiter, quoi.
Moi, j'ai surtout le comparé avec celui de Londres que je connais très bien. Et puis voilà, et puis j'ai déjà fait des petites boutiques.
Tu vas voler des produits, comme t'as fait sur ShopTalk sur les stands.
Mais on n'a pas volé, c'était. Ah, on aurait pu en parler de ça, de cette boutique, la boutique ShopTalk.
Ah oui, bon, je dis ça rigolant, hein. Y a personne ne vole rien du tout. Enfin, on connaît des voleurs, mais on va pas donner leur nom. On connaît un voleur.
Mais non, mais ça, t'aurais dû en parler de la boutique ShopTalk. Moi, je trouve que c'est super cool.
Mais en fait, ils le font à chaque fois.
Après, tu tournes en rond, en fait, et je vois pas l'expérience.
Mais t'étais pas là la dernière fois à Barcelone?
Mais c'était vide.
Ah, on est d'accord, parce qu'en fait, on s'est réveillé le dernier jour. Et le dernier jour, on voit la boutique, mais elle est complètement dévalisée.
Oui. Enfin, donc, en gros, le concept, c'est quoi? C'est que c'est une boutique, et puis tu découvres des produits. Et
franchement, c'est même pas une boutique. C'est une boutique, t'as le système de POS, de scanner,
oui,
tout
c'est
ça.
C'est pour ça que je dis que c'est nul.
C'est juste
en fait.
Un espace.
C'est un espace
où tu te sers et tu te barres.
Et...
Voilà. C'est des goodies.
Alors
tu vas, tu te sers de goodies. Bah, ça sert à rien. Pour moi, c'est complètement bidon.
Ah, c'est en mode shop, parce que pour moi, c'est plutôt en mode boutique.
Ils te scannent même pas.
Si, ils te scannent à l'entrée.
Je suis pas sûr.
Si, nous escannent.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Mais après,
tu crois je me souviens plus.
Mais après, franchement, si on doit parler d'expérience d'achat, c'est nul, on fait que tourner en rond.
Non, mais t'achètes pas.
C'est même
tu
pas
te sers et tu te barres.
En plus, il n'y a même pas d'informations sur les produits. Moi, je cherchais, tu vois.
Oui, mais c'est pour ça, c'est pas une
boutique. Fiche produit.
Pour moi, c'est un truc comme
alors,
les animations de faire du popcorn ou je sais pas quoi. Bah, sers-toi, va prendre 5 goodies et puis barre-toi.
Ah ouais c'est moi, ça, j'avais l'impression qu'il voulait aller plus loin dans le concept.
Bon, et alors attends, pour revenir sur, okay. sur Glossier, tu penses qu'il y aura des trucs de ouf ou pas par rapport à l'année info que tu as visité J'ai l'impression que celui de Londres est meilleur que les autres, non? Parce que sur
il est
onstage,
tout en cité. Il est tout en
ouais,
cité.
Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Je crois qu'ils sont
mais
tellement fiers.
Je pense qu'un jour, s'ils ouvrent à Paris, Paris va détrôner.
Tu crois? Ça va être la folie.
Bien sûr.
Pourquoi c'est pas encore ouvert à Paris?
Je sais pas, mais elle l'a même pas cité encore. Elle a pas dit on voudrait ouvrir à Paris.
Mais elle a dit expansion internationale.
Expansion internationale.
Mais elle était en Asie avant d'aller.
Je pense. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai fait d'autres boutiques. J'ai fait Nike. J'ai fait Ulta Beauty. Et j'en parlerai lors de notre backroom.
Lors du backroom. Mais est-ce que lors du backroom, tu vas parler du Nutella Store?
Bah, j'aimerais bien y aller.
Bah, tu peux expliquer?
Bah, y a un Nutella Café ici. Et en fait, je vois toujours du monde. Une queue, mais. De malades, les gens les gens restent dans le froid parce que quand même, il fait assez froid là, Windy Chicago, franchement ça porte
mais
bien son nom.
Quelle idée de vouloir dans un Nutella Café.
Mais
et c'est moi qui dis non tous les jours.
Mais non, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas et si c'est expérientiel ou c'est
Nutella
juste...
ou pas déjà en général.
Je n'en sais rien.
Tu manges jamais de Nutella.
Tout ce que je sais. Ah non, je mange pas trop
voilà.
de Nutella moi.
Tu protèges les pandas
pas,
ou pas
Mais quel rapport avec les pandas? On tue pas des pandas pour faire du Nutella.
Il y a pas des trucs de huile de palme et compagnie.
Et quel rapport l'huile de palme? Les pandas ça mange du bambou.
Je sais pas, il y a pas un truc. Des raccourcis
et
ESG,
puis l'huile de palme c'est plutôt en Amazonie et en Amazonie t'as pas trop de
bah, arrête de défendre Nutella tu quoi il te
mais je les défends pas je veux comprendre la hype autour de ce okay. lieu
bon
c'est
bah on va le visiter ça,
ça
sera restaurant store restaurant tour c'est ça on lance des
non,
nouveaux
mais
concepts
je suis sûr qu'il y a des tablettes je suis sûr qu'il y a des trucs
à mon avis,
comme
c'est un
ça
truc de déglingo parce que j'ai jamais entendu ça et à mon
bah,
avis
oui,
ça
les gens
ça,
font vraiment
que
la queue genre bah comme le Nike Store tu vois les gens faisaient la queue je comprenais pas pourquoi
on peut parler de pouvoir de la marque quand on parle de Nutella
je pense oui
ils sont communautaires ils font des trucs sur TikTok pour moi
bien sûr
ouais c'est vrai je peux ça en rigolant bah non sérieux
mais oui
ah merde j'ai ça en rigolant
sans
déconner ah oui d'accord ok ah oui donc ils sont super sérieux alors les gens ils sont fanboy.
Ferrero ne blague pas.
Donc il y a des vrais fanboys de Nutella, etc.
Oui.
Ok.
Non, vraiment.
Bon, bah, écoute, on va y aller.
Peut-être qu'il y a des produits qu'on connaît pas. Tu
on
vois,
testera la crêpe à Nutella. Non, ils savent pas faire de crêpes. Bon, on verra.
Non, on sait pas, je ne sais pas ce qu'il y a.
Ok, bon, on découvrira et puis on fera ça.
Mais bon,
on
à chaque fois, je dis que je vais y aller, mais finalement, ça passe à la trappe. Donc voilà. You can live.